Frères et sœurs bien-aimés, chers membres de l'Association des familles catholiques, nous voici réunis sur cette hauteur de Pueylaen, lieu désert choisi entre tous par la bienheureuse Vierge Marie pour établir sa demeure et son sanctuaire. Au cœur de ce sanctuaire, nous avons bien sûr la bienheureuse Vierge Marie qui nous accueille en sa demeure. Son époux, Saint Joseph, uni par les liens du mariage, mais également la belle-mère de Saint Joseph, Sainte Anne. C'est donc un sanctuaire bien familial qui vous accueille ce matin et qui accueille, sous le patronage du gardien de la Sainte Famille, vos intentions de prière. Nous sommes ici dans la vallée des Gaves. Ce sanctuaire de Pueylaen est jumelé de par son histoire à celui bien plus haut en altitude, en notre cher pays Toy, le sanctuaire d'Eas. Dans les temps fort anciens, car le sanctuaire d'Eas est le plus ancien sanctuaire dédié à la bienheureuse Vierge Marie en notre diocèse, dans ces temps anciens donc, voilà que nos pieux bergers du val d'Eas, Eas signifiant les verts pâturages, nous permettait d'entrevoir la bonté de Notre-Dame. Plusieurs fois, elle manifesta aux bergers sa tendresse maternelle, notamment en envoyant ce couple de colombes qui ne cessaient de venir sur ce lieu d'Eas comme planant sur les eaux, tel le retour du déluge, pour annoncer la paix. Voilà que Notre-Dame voulut en ce lieu d'Eas prendre possession de la source du Gave qui serpente et qui va venir ici contourner le sanctuaire de Pueylaen où l'une de ses colombes est venue également manifester que Notre-Dame réclamait autant cette terre comme son sanctuaire. La Vierge a donc pris possession de ce gave qui serpente en cette vallée des Gaves, rejoint par celui de Gavarnie, et de cette vallée ici du Val d'Azun. Il finira en 1858 par passer devant cet autre lieu que la Vierge prendra également comme possession, le domaine de la grotte bénie de Lourdes, et quittera notre Bigorre sur ce sanctuaire voisin en terre béarnaise, le sanctuaire de Notre-Dame de Bétaram, Notre-Dame du Beau Rameau, qui sauva Estelle de la noyade. La Bigorre et Notre-Dame est une histoire fort ancienne, car la Bigorre est à Notre-Dame, sa terre de prédilection, sa terre d'apparition, cette terre maternelle où elle vient justement visiter à travers notre peuple de Bigorre l'ensemble du monde qui est concerné à Lourdes par cet appel à la conversion, à la prière et à la pénitence. Elle reprend sur les bords du Gave ce que fit en son temps Jean le Baptiste sur les bords du Jourdain, cet appel à la conversion du cœur, et c'est au creux du rocher de la grotte de Lourdes qu'elle révélera son nom. Un nom qui était déjà prédestiné en notre diocèse, puisque la patronne principale de cette terre, c'est Notre-Dame, bien sûr, dans le mystère de sa nativité. Lorsque les peuples fort anciens, nos aïeux dans la foi donc, n'avaient pas les mots pour dire l'éclatant mystère qui entourait la naissance de la bienheureuse Vierge Marie, voilà qu'ils avaient instauré cette fête du 8 septembre pour honorer la nativité de celle dont on ne connaissait pas le mot du mystère, mais dont on pressentait bien qu'en Mère de Dieu, elle avait été choisie et préparée pour enfanter notre Seigneur Jésus le Christ. 3 ans et 3 mois après la proclamation du dogme de sa conception immaculée par le bienheureux pape Pie IX, voilà que Notre-Dame à Lourdes dévoilera son nom en notre patois, « Que soy era immaculada concepciu » et moi je suis l'Immaculée Conception. Voilà que nous avions alors les mots de la foi pour dire avec précision le mystère. Et ce sanctuaire de Pueil-Lahun, chéri par Monseigneur Laurence, qui, en Bigourdan, nommé évêque de cette terre, savait bien que tout ce qui doit se passer de spirituel en cette terre passe par la Vierge Marie, à l'image de la devise de la Bigorre, qui n'a qu'un cri, celui de nos croisés bigourdans entrant à Jérusalem, « Notre-Dame, Bigorre !» Eh bien voilà que la Vierge, dans la grotte bénie de Lourdes, vient manifester toute sa vocation maternelle, qu'elle soit l'Immaculée. Cela venait d'être affirmé par l'Église, elle est celle en qui ne se trouve pas la tâche du péché originel. Mais qu'elle soit la conception, voilà le grand mystère de Lourdes. Elle est la conception, tout d'abord parce qu'elle correspond parfaitement à ce que Dieu avait en vue lorsqu'il créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Elle est la nouvelle Ève, entièrement transparente à la grâce de Dieu. Elle est également la conception, puisqu'elle mit au monde celui qui avait créé le monde, notre Seigneur Jésus le Christ lui-même. Elle est tout autant la conception de l'Église, puisqu'au pied de la croix, le nouvel Adam ne l'appela pas mère, mais lui dit « Femme, voici votre fils ». Et le disciple bien-aimé, Saint Jean, qui nous figurait chacun, prit alors Marie chez lui. Ou plutôt, c'est Notre-Dame qui nous prend chez elle, comme gardée à travers son manteau, pour traverser dans le flot des épreuves de la barque de l'Église les assauts d'un monde qui n'en finit pas avec le démon de se détourner de Dieu. Dans ce projet du démon qui veut nous détourner de Dieu, voilà que l'on a commencé par détruire la famille. Le grand pape Léon XIII, dans ses encycliques succédant après le pape Pie IX, aux conséquences de la Révolution française et américaine qui ont atteint notre monde avec l'idéologie des pseudo-lumières, comme ils les appellent, avait bien vu, on le trouvait extrêmement sévère à ce sujet, qu'en autorisant le divorce, c'était la fin programmée de la famille et de la société chrétienne. On le trouvait extrêmement sévère, car alors beaucoup de familles vivaient du sacrement du mariage. Ils n'entrevoyaient pas encore le mariage des personnes de même sexe. Ils n'entrevoyaient pas encore, que l'on ne se marierait même plus. Et pourtant, il avait vu qu'en attaquant l'indissolubilité du mariage, c'était la famille que l'on mettait à mal. Et dans la France d'aujourd'hui, nous avons entendu cette parole prophétique du Seigneur dans l'Évangile dimanche dernier décrire d'un trait notre monde. Ils préféreront les ténèbres à la lumière. La joie complètement folle de ceux qui se sont réjouis de ce que l'avortement était enfin dans la Constitution nous laisse pantois. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Et aussitôt après, on nous annonce que du coup, on va également légiférer sur la fin de vie, plus ou moins de mort naturelle. On va avancer, bien sûr, comme l'avortement, tout un tas d'argumentations très rationnelles. Il ne faudra pas souffrir, vous comprenez, etc., etc., pour en arriver à la banalité, comme c'est le cas pour l'avortement. En étant ici dans ce sanctuaire, vous le voyez, dont la splendeur de la foi de nos aïeux a gratifié ce lieu, mais on y voit également, si on le regarde bien, les fissures d'un monde un peu sans Dieu, une terre un peu oubliée. Ce ne sont plus les pèlerinages de jadis qui venaient honorer la relique de Sainte-Anne avec les filles de Marie-Saint-Fray qui viennent encore faire leur pèlerinage annuel. Ce n'est plus encore la gloire de notre pape Pie IX qui honora ce sanctuaire d'une relique à Saint-Joseph que nous vénérerons en fin de messe. C'est à Monseigneur Laurence, le grand évêque des apparitions, qui avait établi ici le noviciat des pères de Garaison, qui avait demandé au Saint-Père cet insigne relique. Nous sommes ici dans un sanctuaire de la famille de Notre-Dame, avec sa mère, avec son époux, et elle n'a qu'un but, nous conduire à son Fils. Cette famille est malgré tout une famille atypique. Et l'évangile que nous venons d'entendre pour la fête de Saint-Joseph que nous honorons le manifeste. Dans la tradition de l'Église, il y a deux lectures complémentaires de cet évangile. Tout d'abord, le sens littéral. Saint-Joseph et la Vierge Marie se sont mariés. Mais le mariage dans la tradition juive ne se passe pas comme dans la tradition chrétienne. Le mariage se passe en deux temps. Il y a tout d'abord le contrat entre Saint Joachim, le père de Notre-Dame, et Saint Joseph. Le futur époux promet monts et merveilles pour conquérir le droit d'épouser sa promise. Et il viendra de nuit, ne sachant ni le jour ni l'heure où l'épouse surviendra, et nous entendons alors bien des paraboles du Seigneur à ce sujet. Il surviendra alors l'époux, alors qu'on ne s'y attend pas au milieu de la nuit, parce qu'il pourra venir donner tout ce qu'il a promis et emporter alors celle qui est par contrat son épouse, et pouvoir alors habiter dans la même demeure et consommer cette union. L'évangile que nous venons d'entendre, par lequel saint Matthieu, après sa généalogie, ouvre la vie de notre Seigneur Jésus le Christ, le manifeste. Le mariage est contracté, mais l'époux n'est pas encore venu de nuit prendre sa promise. Le mariage n'a pas encore été consommé. Et voilà pourtant que saint Joseph est habité, sens premier et littéral, d'un doute. Lorsqu'il voit sa fiancée, dont il sait qu'il n'a pas consommé l'union, être enceinte. Je vous dis, c'est le sens littéral et le sens premier par lequel commence saint Matthieu pour bien comprendre que saint Joseph n'est pas le père selon l'ordre de la chair de notre Seigneur Jésus le Christ. Ayant vu sa fiancée qu'il aime tendrement et profondément être enceinte, il préfère les conduire et il le fait en secret, puisque selon la tradition de Moïse, elle encourait la mort par lapidation. Il le fait en secret par respect, parce qu'il l'aime et parce qu'il pense, sens littéral et premier, qu'elle l'a trompé. L'ange vient donc avertir saint Joseph qu'il n'en est pas ainsi, que l'enfant qu'elle porte est celui de Dieu. C'est Dieu, l'Esprit Saint, qui, ayant pris Notre-Dame sous son ombre, c'est ce que nous entendons chez saint Luc, va être, elle, la véritable mère de notre Seigneur dans l'ordre de la chair. La seconde lecture dans laquelle nous reconnaîtrons davantage saint Joseph, c'est celle de dire que saint Joseph avait compris que le bon Dieu avait un tel projet sur Notre-Dame. Elle était, vous disais-je, transparente à la grâce de Dieu. Que saint Joseph, avant même de la voir enceinte, comprit bien qu'il y avait là un projet qui dépassait l'entendement, qui était celui du grand mystère de la foi, et il préférait sortir de cette union ne s'en sentant pas digne. C'est alors que l'ange, voilà la lecture allégorique complémentaire à celle du sens littéral, l'ange vient lui annoncer que lui, Joseph, est bien prévu dans ce plan de Dieu. Certes, il ne serait pas le père de notre Seigneur Jésus le Christ dans l'ordre de la chair, mais voilà qu'il serait le gardien d'une expression qui revient toujours dans l'Évangile, et de la mère et de l'enfant. Saint Joseph est donc le gardien de la Sainte Famille, il en est le patriarche, mais tout autant dans l'ordre de la grâce, il est le gardien de toutes nos familles. Il est le gardien des familles naturelles que nous formons ici-bas sur la terre, mais tout autant le gardien de la famille surnaturelle, qui est l'Église. On nous apprend dans l'Évangile, selon la tradition juive, que notre Seigneur reprit dans sa vie cachée le métier de son Père. Il devient donc charpentier, disons-nous, c'est-à-dire celui qui est autant l'architecte que le réalisateur concret de la maison. Eh bien voilà que ces maisons matérielles que le Seigneur a pu bâtir dans les entourages de Nazareth sont toutes déjà dépassées dans cette autre maison surnaturelle qu'il va fonder par le sacrifice de sa vie, c'est le mystère de l'Église. Il est la tête du corps que nous formons par le baptême qui nous agrège au corps mystique de notre Seigneur et qui est l'Église. Saint Joseph est donc aussi le gardien de l'Église domestique de nos familles, de l'Église universelle. Eh bien, nous prions aujourd'hui le grand patriarche pour que nous puissions affronter dans ce monde les difficultés que rencontre la famille. Nous portons dans les intentions que vous avez déposées au pied de l'autel, celles de la famille en général, de toutes ces familles qui sont divisées, de toutes ces familles qui ont perdu un enfant, toutes ces familles qui ont également vécu l'avortement, toutes ces familles qui ont des problèmes du point de vue de leur travail. Toutes ces tristesses et ces angoisses nous concernent également, nous les portons eh bien, à la prière de Saint Joseph. Le Seigneur Jésus, dans l'Évangile dimanche dernier, après avoir dépeint un monde qui préfère les ténèbres à la lumière, nous a envoyés dans les lectures de l'Évangile cette semaine comme témoins de la lumière. Eh bien voilà que nous demandons à Saint Joseph l'humilité de pouvoir témoigner, et cela coûte au jour d'aujourd'hui, du bonheur de la famille, de ce projet que Dieu a pour l'homme et la femme créé à son image et à sa ressemblance, et que c'est au sein de cette ressemblance et de cette complémentarité de l'homme et de la femme que alors l'homme et la femme peuvent engendrer la vie avec ces sentinelles de l'invisible, comme l'appelait le saint pape Jean-Paul II, désignant la femme ou plutôt la mère, puisque c'est dans le ventre de notre mère que nous avons reçu, dès le premier instant de notre conception, cette âme éternelle, témoignage de cette éternité que Dieu pensait déjà à nous avant même que nous soyons façonnés dans les entrailles de notre mère. C'est, pour revenir au message de Lourdes, dans les entrailles de Sainte Anne, dès le premier instant de sa conception, non seulement que Notre-Dame a reçu cette âme éternelle, mais qu'elle fut choisie et immaculée. Elle est sans péché et elle vient ici-bas, au secours des pécheurs et des pécheurs que nous sommes. Alors que nous fêtons et honorons Saint Joseph, avec la gravité des temps que nous affrontons dans le monde et dans l'Église, nous demandons au patriarche eh bien, de nous aider, nous aussi, là où nous sommes, à toujours défendre et la femme et l'enfant, à toujours défendre la famille et ses droits ô combien légitimes, même si nous sommes moqués du doigt, même si cette famille indivisible, ce sacrement du mariage est comme bafoué, voire ignoré aujourd'hui. Nous devons aussi beaucoup prier pour qu'avec humilité, nous puissions porter au monde ce témoignage de vérité. Ce témoignage de vérité que l'homme et la femme, dans leur complémentarité, seuls peuvent engendrer la vie. Puisse Notre-Dame de Poix-la-Hun, puisse Saint-Joseph et l'enfant Jésus, puisse Sainte-Anne et Saint-Joachim venir à notre secours, alors que nous honorons en ce jour Saint-Joseph. Ainsi soit-il.